Radio Kapi.
Le journal Pascal Masserica.
À la une ce soir en Ituri, 11 personnes parmi lesquelles des enfants ont été enlevées depuis 3 jours par des rebelles ougandais de l'ADF dans la chefferie de Walese Vonkutu. Selon la société civile locale, seuls des adultes ont été relâchés. Bientôt de l'eau potable pour plus de 3 millions d'habitants de Mbujimayi, c'est grâce à l'arrivée d'une vingtaine d'engins qui permettront à l'entreprise chinoise CGCD de sécuriser le bassin de Lukalenge et de construire des châteaux d'eau dans cette ville. Notre invité, c'est le coordonnateur du Forum de la paix basé à Beni. Justin Matete plaide pour des patrouilles mixtes entre la police, les FARDC et les chefs de base afin de lever le couvre-feu dans cette ville en proie à la criminalité. Madame, messieurs, bonsoir. En Ituri, 11 personnes parmi lesquelles des enfants ont été enlevés depuis 3 jours par des rebelles ougandais de l'EDF dans la chefferie de Walese Vonkutu. Selon la société civile locale, seuls les adultes ont été relâchés par les ravisseurs. Ils ont été kidnappés à Zunguluka, localité située à une dizaine de kilomètres du centre commercial de Boga, en territoire d'Irumu. Reportage à Bounia d'Ezekiel Mouzalia.
Ces enfants, dont l'âge varie entre 9 et 17 ans, ont été enlevés le week-end. Des sources locales dans la zone rapportent que parmi les victimes figurent 5 filles mineures. Le secrétaire du bureau de la société civile locale rapporte que 11 enfants ont été amenés dans la brousse. Seuls les adultes ont été libérés. Dieudonné Malangaï dit craindre que ces enfants ne soient enrôlés dans les rangs de ces forces négatives.
Selon le système dans lequel les préfets opèrent, c'est pour faire enrôler seulement ces enfants dans leur groupe. À l'armée de se prendre à charge pour lâcher les actions de grande envergure pour que la paix règne.
De son côté, la responsable de la police en charge de la protection de l'enfant en Ituri s'est dit choquée par cet acte qui va à l'encontre de la dignité de l'enfant. Honorine Mugnolé plaide pour une intervention urgente des services de sécurité pour que ces enfants recouvrent leur liberté.
Moi, ça me choque parce que ce cas-là doit traumatiser nécessairement la famille. Ça doit aussi traumatiser les autres enfants qui ont appris que les leurs sont emportés dans la brousse. La place d'un enfant, c'est dans la famille.
Contacté hier par Radio Okapi, l'armée dit poursuivre les opérations dans la zone. Signalons que les acteurs de la société civile disent avoir enregistré depuis le week-end dernier plus de 20 personnes kidnappées. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, les animateurs du DDR communautaire déplorent le retard du lancement du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation de retour d'une mission de sensibilisation effectuée dans le territoire de Massissi. Ils affirment subir une pression des miliciens qui sont disposés à déposer les armes. Fin hier, lundi, à Beni, toujours au Nord Kivu, de la campagne dénommée « Une bougie pour la liberté de la presse ». Pendant une semaine, en effet, les professionnels de médias de la zone ont signé un mémorandum dans lequel ils plaident pour plus de garanties de sécurité. Le document a été remis aux autorités de la ville. D'autres précisions avec vous, André Kitenge.
Les professionnels de la presse présents ont tous signé un mémorandum dans lequel figurent plusieurs recommandations à l'intention des décideurs politiques et des forces de l'ordre, notamment celle de la sécurité des journalistes. Un document remis au maire de Beni avec une bougie sollicitant l'accompagnement et la sécurité, ainsi qu'aux forces de l'ordre. Mustapha Moulonda, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section de Beni.
Chère autorité urbaine, assurez notre sécurité, la sécurité de tous les professionnels de médias, en toutes circonstances et en tout lié en province et en territoire et en ville de Beni afin de nous permettre de jouer notre rôle en toute liberté comme dans tout ce qui est recommandé par votre travail et les nôtres.
De son côté, le maire de Beni a rassuré les journalistes de son accompagnement et la sécurité dans la justice et non dans la désinformation. Le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachali.
Je suis derrière vous, vous accompagner, vous soutenir et vous sécuriser lorsque vous êtes dans la justice, la vérité. Si c'est en dehors de ça, je vous confirme que je ne suis pas avec vous.
Les journalistes réclament la sécurité dans l'exercice de leur métier et la justice après l'assassinat de 3 de leurs confrères tués au Nord Kivu cette année. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Recrudescence des vols à main armée dans la commune d'Nzanza à Matadi dans le Congo central. Le coordonnateur de la société civile locale déplore la carence des policiers dans cette juridiction. Jean Zouzi affirme à Radio Kapi que cette commune habitée par plus de 350 000 âmes n'a que 30 policiers opérationnels. Pour combler ce vide, il propose que des policiers de roulage soient affectés à la police administrative à Matadi. Nana Plurich Mambou.
Selon Jean Djouzi, coordonnateur de la société civile de Nzanza, l'insécurité à Matadi est une énigme difficile à résoudre car selon lui, elle dépasse les autorités compétentes. La même source affirme qu'en ce mois d'août, 5 changeurs de monnaie, dont 4 blessés par balle, ont vu leurs sacs contenant d'importantes sommes d'argent emportées par des braqueurs. Aussi, plusieurs maisons sont victimes des incursions des inciviques appelés Kuluna. Le dernier cas en date est celui vécu dans la nuit du dimanche 29 à lundi 30 août au quartier d'Iskine à Nzanza. Le 5 août dernier, aux environs de 19h, un établissement de services financiers a été dévalisé en plein rond-point Kikanda. Les criminels ont tiré plusieurs balles en l'air afin de réussir leur opération sans la moindre réaction des services de l'ordre. Pour Jean Djouzi, cette insécurité est due à l'insuffisance des effectifs des policiers. En Zanza, par exemple, sur sept quartiers qui regorgent cette commune, il n'y a que 4 sous-siats et un siat de la police avec 30 éléments opérationnels sans une quelconque logistique, soutient-il. Or, entre-temps, a-t-il indiqué, un nombre inutilement élevé de policiers sont notamment à la PCR et aux hydrocarbures. Selon la société civile, ils rançonnent et tracassent les chauffeurs et les commerçants dans les différents carrefours où ils sont commis. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi, en plus bref, l'arrestation à Matadi dans le Congo central de 2 collaborateurs du gouverneur du Congo central, Claude Nzeza Nzigeti, directeur de cabinet, et Jean-Willy Mafuala, comptable public, qui ont passé leur première nuit au cachot de la police nationale. Après enquête, l'inspection générale des finances accuse le gouverneur Atumatubwana et ses collaborateurs de détournement de plus de 10 millions de dollars américains. Sont également accusé le secrétaire particulier et l'assistant du gouverneur. Le dossier avait été transmis au procureur général près la Cour de cassation à Kinshasa. Pour toutes ces raisons, la Direction générale de migration des GEM interdit à toutes ces personnes de quitter la RDC. Autre nouvelle sur Radio Kapi, plus de 3 millions d'habitants de la ville de Mbujimayi peuvent accéder à l'eau potable de la régie des eaux. C'est grâce à l'arrivée hier d'une vingtaine de camions, bennes basculantes, de pelles, chargeuses et des tracteurs à chenilles. Ces engins ont été réceptionnés par le gouverneur de province au poste de Chimbombo. Selon les représentants du directeur général de la régie des eaux, ces engins vont ainsi permettre à l'entreprise chinoise CGCD qui a gagné le marché de sécuriser le bassin de Lukalenge et de construire en même temps des châteaux d'eau sur la ville. Émile Losambe s'est confié à la presse du gouvernorat.
Ce sont les engins et équipements du deuxième lot d'un vaste projet qui a été lancé ici en Mbujimayi. À la fin des travaux de ce projet, la ville de Mbujimayi verra sa capacité de production passer de 8000 m3 aujourd'hui par jour à plus de 50000 m3 jour. Avec ce projet ici, toutes les autorités de la région, sous l'impulsion du chef de l'État et du gouvernement, vont doter, n'est-ce pas, la ville de Mbujimayi d'un système de desserte en eau potable moderne. Le premier lot a été gagné par la société chinoise Pan China. Ils ont la responsabilité de pouvoir agrandir les ouvrages, renouveler les équipements sur notre site de Bakwakapang. Pan China va également construire une tuyauterie d'une longueur de plus ou moins 5 km traversant la ville pour amener de l'eau vers les châteaux d'eau. Que la deuxième société que nous venons de recevoir aujourd'hui, CGCD, qui a la responsabilité de sécuriser le bassin captant de la source de Lukilingue. Et en ce moment-là, nous captons l'eau maintenant de la source de Lukilingue, on en va à Bakwakapanga. Et de Bakwakapanga, on va envoyer de l'eau maintenant sur le château d'eau. C'est ça la modernité. Plusieurs châteaux vont être construits dans la ville. C'est une nouvelle technologie qui va permettre aussi à ce que nous puissions économiser de l'énergie.
Et puis, les opérateurs économiques du Haut-Katanga ont été sensibilisés sur les 11 mesures économiques pour la promotion du commerce et de l'industrie locale. C'était hier lundi après-midi lors d'un entretien avec le ministre du Commerce extérieur. À l'issue de la rencontre, Jean-Lucien Boussa s'est confié à Jean Gandou.
Ils ont beaucoup insisté sur une fiscalité compétitive, ils ont beaucoup insisté sur les coûts des transports, ils ont insisté sur les défis énergétiques et les défis infrastructurels. J'ai aussi échangé avec eux dans la perspective de l'évaluation de l'accord commercial bilatéral que nous avons avec la Zambie, qui devait intervenir incessamment après la mise en place du nouveau gouvernement en Zambie, pour que les préoccupations des hommes d'affaires du Grand Katanga puissent être mises en exergue, afin de nous permettre, lorsque nous avons des discussions avec nos partenaires de la Zambie, de mettre en surface les vraies questions qui se posent aussi à nos opérateurs économiques qui conviennent d'être résolues. La fluidité du commerce, c'est aussi la levée des obstacles non tarifaires. Nous sommes mis d'accord là-dessus pour qu'un document nous soit préparé et qui relève ces problématiques et qui nous permette finalement d'avoir un accord commercial bilatéral gagnant-gagnant, mais aussi de sécuriser les opérateurs économiques congolais dans leurs échanges avec la Zambie.
Réunion ici à Kinshasa de la grande commission mixte entre la RDC et le Burundi du 31 août au 2 septembre. Les travaux qui se déroulent au fleuve Congo Hôtel impliquent les experts des deux pays dans les domaines de la politique, de la diplomatie et de la gouvernance, de l'économie, des finances et de la défense nationale. Selon actualité.cd, les travaux de Kinshasa seront sanctionnés par la signature d'un accord général de coopération. La partie congolaise est conduite par Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale, et la délégation burundaise par Albert Nshigiro, ministre des Affaires étrangères. Au Sud-Kivu, le premier jour des examens d'État a été émaillé d'incidents dans les territoires de Calais. Certains chefs d'établissement ont disparu avec tous les frais de participation à ces épreuves et les dossiers des candidats. Et deux enseignants mercenaires ont été attrapés dans la salle en train de présenter les épreuves de l'examen d'État à la place de leurs frères dans le territoire d'Idui. Reportage à Bukavu d'Emmanuel Elemejo Kabedi.
Les principaux incidents sont enregistrés à mi-Nova dans le territoire de Calais le lundi. Les élèves de trois écoles ont failli rater les épreuves faute de preuves de paiement de frais et autres dossiers scolaires. Leurs préfets respectifs ont fui avec l'argent et n'ont même pas transmis les dossiers aux inspecteurs. Il a fallu l'intervention de l'inspecteur principal provincial pour que ces élèves aient accès en salle aux environs de midi. Joseph Diangenda, IPP Sud Kivu 1.
On avait bloqué les enfants. J'avais donné l'ordre que tous les enfants soient libérés et qu'on cherche le chef d'établissement qui a fui avec les frais de participation, qu'on fasse un mandat pour lui, mais que les enfants ne soient pas traumatisés. Mais l'essentiel, tous les enfants ont passé les épreuves. J'ai dit de ne rien demander encore à ces enfants. En attendant, on cherche seulement le chef d'établissement.
Dans le territoire d'Idji, par contre, ce sont deux enseignants déguisés en élèves et en uniforme qui ont été surpris en train de passer les examens à la place de leurs frères. Ils sont en ce moment entre les mains des services de renseignement locaux. Un troisième cas est celui d'un chef de centre qui a connu un accident de circulation et est grièvement blessé. Il a vite été remplacé pour un bon déroulement des épreuves. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Kasaï central, les agents de la santé dont les affectations ont été annulées par le gouverneur intérimaire réclament leur réhabilitation. Depuis hier lundi, ils organisent un sit-in devant le siège de l'Assemblée provinciale. Dans leur mémorandum, ils disent attendre toujours que l'autorité provinciale revienne sur sa décision. Un de ces agents s'exprime au micro de François Kadima.
Nous ne pouvons plus subir des traitements contraires à la constitution de notre pays, ni supporter cet état de calvaire, tout en nous remettant en chômage, qui nous rend incapables de servir aux besoins sociaux, car nous avons constaté nos désignations ont été annulées par la volonté purement politique bien planifiée. C'est ainsi que, pour ne pas entrer en détail, cette impasse actualité dont vous reconnaissez plus mieux que nous. Nous prévenons que certains qui subissent cette précarité sont sur les listes de base matriculées, primées, voire les autres sont salariés, tout en vous prévenant sur les conséquences car ces derniers ne participent pas aux activités comme état des actifs.
Ces agents de la santé qui n'ont toujours pas été reçus par le président de l'Assemblée provinciale avaient été affectés en novembre dernier par le ministre provincial de la Santé publique.
Actualité internationale.
Les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan lundi soir, mettant ainsi fin à leur présence de près de 20 ans dans ce pays. Avant de quitter Kaboul, ils ont détruit systématiquement avions, véhicules et défenses aériennes. Un départ qualifié de désastre par une grande partie de la presse américaine à quelques heures du discours très attendu du président américain Joe Biden, en difficulté face à son opinion publique. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné ce mardi après-midi la Russie pour absence d'enquête appropriée sur l'assassinat de Natalia, une militante qui avait dénoncé des crimes qui auraient été commis par des policiers en Tchétchénie. La Cour a également estimé que les éléments de preuve qui lui ont été apportés par la sœur de la victime ne permettaient pas du tout de conclure à l'implication de l'État russe dans l'assassinat de cette dame. C'est ce que raconte l'AFP.
L'invité.
Notre invité ce soir, c'est le coordonnateur du Forum de la paix basé à Beni au Nord Kivu. Justin Matete plaide pour des patrouilles mixtes entre la police, les FARDC et le chef de base afin de lever le couvre-feu dans cette ville en proie à la criminalité. Il s'entretient avec André Kitenge.
Maître Justin Matete, vous venez de publier un communiqué de presse plaidant pour les patrouilles mixtes PNC et FARDC, chef de base, et la levée du couvre-feu pour rendre crédible le travail des patrouilleurs dans la ville de Beni. Peut-on savoir la motivation?
Justement, vous savez, la ville de Beni, ce n'est plus un secret, vit ou traverse un moment calamiteux. C'est dû, nonobstant l'existence de l'état de siège, qui était salutaire pour tout le monde, mais il s'observe vraiment une montée en flèche des cas de cambriolages dans des domiciles, et ça c'est d'un côté, d'ailleurs c'est les moindres, mais on vous dit qu'il y aurait certaines tentatives de viol à l'endroit des femmes, et il y en a qui ont été aussi victime des tentatives de meurtre. Et donc, au regard de ces tohubou-là, nous sommes dit c'est paradoxal. Et étant donné il y a certains témoignages, bien sûr non fouillés peut-être parce qu'il n'y a pas de preuves, mais à partir du moment c'est déjà sur les lèvres de plusieurs personnes, on s'est dit pour lever l'équivoque, pour ne pas incriminer les patrouilleurs, ça vaut la peine que les patrouilles soient mixtes. Parce que les suspicions sont aussi nombreuses que ce qu'on attendait des patrouilleurs. Et donc, de l'autre côté, comme les couvre-feux, c'était ça, les boucs émissaires, ou c'est ça même les boucs émissaires de plusieurs qui disent, voilà, parce qu'il y a couvre-feux, on ne sait pas monter des stratégies d'autodéfense, et c'est comme ça que les gens se disent, ah non, non, t'as mieux qu'on lève la mesure, pourtant, instauration des couvre-feux, parce que là, on sera libre à chaque fois qu'il y a mouvement suspect, et les jeunes vont se contribuer dans les quartiers, et voir dans la mesure du possible comment ils peuvent poursuivre ces bandits armés non encore identifiés.
En quoi cette situation vous inquiète, vous, comme un forum de paix?
Ça inquiète parce que, au fait, vous savez, nous sommes pendant une période exceptionnelle. Avant état de siège ne doit pas être après état de siège. C'est donc un parallélisme qu'il faut établir. Ça nous inquiète pour autant que plusieurs maisons ont été cambriolées. Et donc, l'état de siège, qu'on y ait qu'il soit, par exemple, caractérisé par des miels, par des bouquets de fleurs. Mais malheureusement, il y a des gens qui sabotent l'état de siège. C'est pourquoi nous disons, il est temps que l'on revienne au bon sens. Parce qu'au fait, un travail, lorsque il ne connaît pas l'étape de l'évaluation, eh ben, il court le risque d'aller droit au mur. Et donc, nous, on ne veut pas que l'état de siège échoue. C'est pourquoi, dans notre façon de travailler, non seulement parce que nous voyons ce qui ne va pas, mais nous proposons aussi des pistes, des solutions. Voilà, nous avons pensé que, comme les suspicions sont maintenant nombreuses, les civils, s'ils font partie désormais dans les équipes des patrouilles, même s'il s'avérerait que certains brebis galaises au centre de ces patrouilleurs seraient tentés de se livrer à cela, à partir du moment déjà il y a la présence des chefs des 10 maisons, des cellules, des avenues, selon comme ils vont bien vouloir. Et donc, cette tentative n'aura plus son pesant d'or où les bandits armés ne sauront plus se livrer à ça si jamais l'hypothèse des patrouilleurs est acceptée. Mais de l'autre côté, il va se consolider une relation police-militaire d'un côté et la population de l'autre.
Que recommandez-vous aux différentes autorités de la ville?
Oui, nous avons pensé que celui qui lance un ballon qui ne va pas droit au poteau, il tape à côté. Et nous avons circonscrit nos différentes recommandations à des échelons différents. Et la première des choses, c'est que nous avons adressé au gouverneur militaire des provinces, parce que c'est lui qui avait instauré la mesure des couvre-feux sur toute l'étendue de sa province, d'élever cette mesure des couvre-feux à Beni. C'est cela va faciliter aux jeunes, toutes les fois qu'il y a des mouvements suspects dans les quartiers, de se soulever. Mais aujourd'hui, ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas non seulement transgresser à cette mesure, mais de l'autre côté, être victime de ces bandits-là. Pour ce qui concerne les présidents du comité urbain de sécurité et maire des villes d'ailleurs, nous avons pensé qu'il doit essayer donc de faciliter en fait ces processus d'intégration de ces différents chefs des avenues, des 10 maisons, comme nous avons demandé. Nous avons aussi pensé que la population ne doit pas dormir sous ses oreilles. Et là, ça veut dire qu'elle doit continuer à signaler tous les mouvements inhabituels. Elle doit demeurer vigilante et tout mouvement suspect. Il ne faut pas attendre que les chefs des bases puissent passer par votre maison pour demander qui est celui-ci, qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, il est ici, il vient faire quoi? Non. Ayons cette culture parce qu'ailleurs, ça existe et ça prend route et la sécurité dans les agglomérations.
Maître Justin Matete, je vous remercie.
Je vous en prie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur du Forum de la paix dans la ville de Beni au Nord Kivu, Justin Matete, interrogé par André Kitenge. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Alain Rungmouchige qui l'a supervisé. Retrouvez cette édition sur www.radiookapi.net.